Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là, merci à toute l'équipe Pitiz. Alors, vous êtes nombreux, donc je ne vais pas tous vous citer, mais merci pour l'accueil et ce partenariat. Moi, ça me fait plaisir parce que Elodie, on se connaît depuis un très long moment maintenant. Donc, moi, je vais aller assez vite sur la présentation de Mediaveille. Ça va être assez dense. Je dois avoir à peu près, si on compte les slides qui sont plus vides que d'autres, 60 slides. On a à peu près une heure, donc ça va aller vite, mais on aura le temps après d'en discuter. Mediaveille, qui sommes-nous? Ça, c'est la dernière photo prise ce week-end parce qu'on fêtait les 20 ans de Mediaveille. Donc, Mediaveille il y a 20 ans. Et Mediaveille appartient à MV Group. MV Group a lui 10 ans. Donc, MV Group, c'est plusieurs filiales, hein, toujours dédiées sur la partie digitale, mais qui ont chacun, qui s'adaptent chacune à, on va dire, un moment du parcours d'achat sur Internet. Les expertises Mediaveille, donc le web marketing, hein, chez nous, le web marketing, c'est toute la partie référencement payant. Donc ça peut être aussi bien de l'acquisition Google Ads, Bing Ads, Social Ads, email acquisition sur des bases louées, affiliation, co-registration, voilà, tout ce qui est un budget auprès d'une régie qui n'est pas Mediaveille, passe chez nous web marketing, c'est 45 personnes aujourd'hui. La data web analyse, data je pense que tout le monde en entend parler vraiment régulièrement maintenant, c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui on peut tout analyser sur le digital, on ne s'en prive pas, par contre c'est un vrai travail et beaucoup de temps derrière en data analyse. Pour avoir des recommandations, nous, pour nos clients qui sont pertinentes. Référencement naturel contenu, c'est notre deuxième plus gros pôle après le web marketing. Référencement naturel, on va y revenir un peu après, hein. Mais c'est 35 personnes aujourd'hui chez nous. Marketing d'influence et social media, c'est une dizaine de personnes. Ergonomie web design, nous, sur la partie ergonomie web design, on ne sera jamais une agence de communication. Si vous avez besoin de faire une charte graphique, etc., ce ne sera pas Mediaveille. On ne sera jamais une agence de développement. C'est pour ça que je travaille en partenariat avec Itiz. On est partisan de séparer les expertises. Aujourd'hui, on ne peut pas être expert dans tout, sinon on est quasiment expert dans rien. L'ergonomie web design, donc pour y revenir, nous, l'ergonomie, le but, c'est pas de savoir, hein, en gros, si le bouton doit être bleu ou rouge, c'est de savoir quelle est la forme du bouton, quel est le texte qu'on met dessus, où est-ce qu'on le met dans la page. On n'est pas là pour faire de la charte graphique, on est là pour la performance. Veille stratégique, c'est le métier historique de Mediaveille, c'est pour ça que ça s'appelle Mediaveille. Il y a 20 ans, Mediaveille s'est créé sur la base de la veille stratégique uniquement sur le digital. Pas de veille papier, journaux. Magazine. Stratégie globale, qui est un pôle finalement qui va chapeauter tous les autres pour qu'on ait une stratégie qui soit cohérente de A à Z pour nos clients. Si on travaille sur du web marketing et du référencement naturel pour un client, il ne faut pas qu'il ait, faut pas qu'il y ait de discordance entre les deux pôles. Pour le client, il faut que ce soit unique et unifié. Formation, on est aussi formateur agréé, donc agréé OPCA, DataDoqué. Et on est formateur sur tous nos pôles d'expertise. C'est les experts qui travaillent au quotidien pour nos clients, qui sont eux-mêmes formés à la formation, voilà, et qui vont former nos clients sur tous ces sujets-là. Quelques chiffres très rapides, il y a 11 agences en France, l'idée c'est d'être vraiment proche des clients, 8 pôles d'expertise, 20 ans d'expérience, 150 collaborateurs au niveau Mediaveille, MV Group c'est 247 maintenant, et on a toutes les plus grosses certifications qui vont bien sur nos métiers, Google Partner Premier, Facebook Marketing Partner sur la partie strat et achat. Microsoft, alors anciennement Bing, peut-être que vous le connaissez sur Bing Ads, c'est devenu Microsoft Ads. Et la plus haute certification CZEO, il y a deux certifiés en France depuis 2018, dont un qui est chez nous, au niveau SEO. Quelques clients rapidement que vous devez connaître, c'est tous des e-commerçants dans divers domaines, il y en a qui sont dans la région, d'autres pas. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Alors il va y avoir quelques chiffres au début de recontextualisation du digital. Aujourd'hui, 90% des gens utilisent Internet. On passe quand même 4h38 par jour sur un ordinateur ou sur un mobile, de plus en plus sur mobile, vous le savez. Et sur ces 4h38, il y a 1h17 sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, une stratégie social media, elle s'inscrit quand même pleinement dans la stratégie globale digitale à mettre en place pour une société. On va le voir après, il faut juste faire les choses dans l'ordre, avec les bonnes personnes et ne pas griller les étapes. Développer chacun des leviers à 100% avant de vouloir aller sur un levier suivant qui n'aura pas 100% de qualité si on n'a pas fait la brique d'avant. 93% d'utilisation mobile, 80% sur ordinateur portable. Aujourd'hui, vous le savez, hein, mais ça fait à peu près un an que les requêtes sur mobile ont dépassé celles sur ordinateur. Donc il y a un vrai enjeu sur le mobile, à la fois au niveau ergonomie, au niveau référencement naturel et référencement payant. Pourquoi? Parce que l'écran quand même d'un mobile est beaucoup plus petit, donc les référencements payants arrivent avant les référencements naturels. Donc voilà, il y a pas mal de stratégies à bien avoir en tête sur cette partie-là. Et sur la partie référencement naturel, on va être sur l'optimisation des temps de chargement. Aujourd'hui, on ne conçoit quasiment plus un site qui se charge en moins de 4 secondes. Sur un site e-commerce, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a des petites astuces là-dessus. Mais néanmoins, c'est à peu près le temps qu'il faut avoir en tête. Bon, l'utilisation dans la journée. Alors, sur le digital, les comportements ont changé. Je pense que vous l'avez tous bien perçu. Avant, on faisait nos courses, nos achats en magasin. Donc, on allait dans la rue et finalement, ce que sont les sites internet aujourd'hui, c'était une boutique physique. Donc, on rentrait dans la boutique. Aujourd'hui, on va sur internet, on paye sur internet. Néanmoins, il y a deux approches. Il y a le parcours d'achat qui a complètement changé. On va le voir sur la slide d'après. Sur internet, on va se renseigner, faire ses recherches, aller prendre de l'information, regarder des avis, des vidéos. Des commentaires sur les réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas avant. Et après, on va aller en magasin pour finir l'achat si on ne l'a pas finalisé sur Internet. Si maintenant les retours sont gratuits, on a quand même envie de savoir si la chaussure me va bien, s'il faut que je la prenne en 41 ou 40. Même si le retour est gratuit, c'est toujours assez contraignant de retourner à la poste, refaire le colis, etc. Donc il se passe quand même pas mal de choses maintenant sur ce point-là, c'est qu'on va en magasin, on regarde le produit qu'on va recevoir et on finalise sur Internet. Et avant même de finaliser, maintenant qu'on sait que c'est ce produit-là qu'on veut, on va comparer toutes les offres. Et ça, on le voit exactement ici. Avant, chaque achat part d'une stimulation de besoin. Stimulation de besoin, c'est voilà, mon lave-linge est tombé en panne, j'en ai besoin d'un nouveau. Ça va être une conversation entre amis, ça peut être un affichage dans la rue, ça peut être n'importe quelle stimulation du besoin est à la base d'un achat. Avant, on allait en magasin, on l'achetait. Et ce qu'on appelait le deuxième moment de vérité, c'était quand on rentrait à la maison, on essayait le produit. À la limite, avant, on en parlait un peu en bouche à oreille autour de soi. Aujourd'hui, c'est Google qui a présenté ça, mais finalement, c'est valable pour tous les parcours. Il y a toujours un stimulus au départ. Par contre, il y a un moment qui s'est intercalé, ce qu'on appelle zero moment of truth, qui se met entre le stimulus et l'achat, qui va être ce que je disais tout à l'heure, la recherche sur Internet des avis, des commentaires, des descriptions produits, des vidéos, des comparateurs. Et après seulement, on va passer à l'achat, qui est toujours donc le premier moment de vérité. Il y a toujours le second moment de vérité qui va être le test à la maison. Et après, on rebascule sur une phase qui est super digitale et super importante pour votre e-réputation, c'est le partage d'expérience. Aujourd'hui, si ce partage d'expérience n'est pas bon, ça va impacter tout de suite la nouvelle étape zéro. D'accord ? Donc, ne pas prendre en compte cette partie-là, ou du moins la prendre en compte un peu tard, peut vite rejaillir à moyen long terme sur la partie acquisition pure. Donc l'idée, c'est d'agir sur ces premières parties-là pour amener vos clients, vos prospects à l'achat. Et il est possible d'agir sur toutes ces étapes-là par différents leviers. Donc les métiers se sont spécialisés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous aujourd'hui, on ne se lancera pas à faire du développement, on ferait moins bien que Itis Commerce par exemple. De la même manière, on ne se lancera pas dans la communication. Par contre, la stratégie digitale, on essaie de la faire de A à Z et que ce soit performant. Donc il faut des experts dans chaque domaine. Vous êtes toujours au centre de tous nos projets. Hein. Pour nous, après, il y a trois acteurs distincts. Il y a l'agence de stratégie digitale qui va finalement transmettre ses recommandations à l'agence web et à une agence de communication. Vous êtes en direct aussi. Et l'agence de stratégie digitale va, driver toute la partie régie publicitaire. L'agence de communication va se charger de toute la partie purement communication, identité visuelle, positionnement, marketing, charte graphique, et l'agence web de la partie technique. Et en travaillant avec des experts sur chacun de ces domaines, vous vous assurez quand même d'avoir un projet qui est mené de A à Z par des gens qui connaissent leur métier, et avec une vision globale dans la durée de tout ce qu'il y a à mettre en place. Donc les avantages du web, je vais passer assez vite, hein, mais toucher les personnes en phase de recherche, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un frigo, je vais faire ma recherche, je peux tout de suite vous faire apparaître les résultats de mes clients. Prendre contact avec une entreprise beaucoup plus simplement qu'avant. Passer des commandes à toute heure. Hein. Sur le e-commerce, il n'y a plus de notion de jour ouvré ou d'horaire dans la journée. On passe les commandes tout le temps. élargir la zone de chalandise. Aujourd'hui, le seul moyen, c'était d'ouvrir des magasins dans plusieurs villes. Aujourd'hui, vous ouvrez un site internet. Si vous êtes capable, avec des livreurs, de livrer en France ou à l'Europe, vous élargissez quand même énormément votre cible. Développer sa notoriété. Avant, on passait par de l'affichage, de la radio, de la presse, de la télé. Aujourd'hui, ces mêmes stratégies-là sont déployables en digital avec du display, avec YouTube, etc. Fidéliser ses clients. On va pouvoir mettre en place des stratégies ultra personnalisées, envoyer le bon message à la bonne personne et au bon moment, ne pas envoyer une offre de bienvenue à quelqu'un qui est client depuis 4 ans chez moi. Aujourd'hui, ça va être déceptif. On va pouvoir modéliser et segmenter toute une base de données, à savoir quels sont vos nouveaux clients, quels sont vos clients qui deviennent de bons clients, quels sont les ambassadeurs et qui vont être ceux qui vont finalement me coûter le moins et me rapporter le plus dans la durée, et quels sont les abandonnistes. Et tous ces gens-là, il va falloir les travailler différemment. Le digital aujourd'hui le permet beaucoup plus qu'avant. Développer une relation personnalisée qui va avec la fidélisation client. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'envoyer le même message à toute sa base de données. En tout cas, ce n'est pas la meilleure stratégie. Réduire le coût d'acquisition d'un client. On va pouvoir le mesurer beaucoup plus facilement qu'avant, savoir de quel levier, de quel mot-clé, et donc réduire tous ces coûts-là. Nous, c'est comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire que le but, c'est qu'on part d'un coût d'acquisition qui doit être inférieur à la marge que vous dégagez sur chaque vente, hein, évidemment. Et ce coût d'acquisition, le but, ça va être de le réduire au maximum et augmenter le revenu généré par client. L'élément essentiel pour réussir sur le web. Alors, le client est roi. Ça, de toute façon, c'est toujours le cas. Là, c'est surtout le ROI qui était important pour moi. C'est le retour sur investissement. Aujourd'hui, toute la stratégie digitale doit être mesurée en termes de rentabilité. Et on arrête un levier qui n'est pas rentable pour se concentrer sur le rentable. Et voilà les questions à se poser pour moi. C'est combien vous rapporte un client sur sa durée de vie. Je suis parti sur 5 ans, hein, mais l'idée c'est que chacun de vous a une activité peut-être différente. Vos clients n'ont pas la même durée de vie. La fidélisation ne se passe pas de la même façon. La récurrence d'achat n'est peut-être pas la même. Donc la question à se poser, c'est quel est le produit que je vends? Quel est mon panier moyen? Quelle est ma marge sur chaque vente? Là-dessus, quelle est la récurrence d'achat par an ou sur toute sa durée de vie, donc sur 5 ans et sur toute sa durée de vie. À partir de ces éléments-là, vous allez être capable de calculer ce qu'on appelle la Customer Lifetime Value, à savoir combien me rapporte un client sur sa durée de vie dans mon entreprise en tant que client. Ça, c'est super important pour faire des prévisions à moyen-long terme et avoir une vraie orientation stratégique des actions que vous allez mener. Donc bien se poser sur cette stratégie-là avant, qui va nous permettre de calculer derrière toute la stratégie, les coûts qu'on va mettre en face, le budget qu'on va mettre en face de la rentabilité. Donc les questions à se poser, hein, combien de contacts pour un devis ou combien de visites pour un achat, pour un panier? Combien il me faut de visites? Je vais prendre le cas du e-commerce, mais combien de paniers il me faut pour réaliser une vente qui soit payée avec un nouveau système PrestaShop? Et combien au final, calculer combien il va me falloir de visites pour avoir une vente. Donc là, tout à l'heure, on parlait de taux de conversion, mais plutôt sur le côté module de paiement. Nous, on parle de taux de conversion sur le nombre de visites. Sur le nombre de visites que vous avez sur votre site web, combien vont passer à l'achat. Pour le calculer, ça se passe exactement comme ça. Donc c'est valable en devis, en B2B ou en e-commerce pur. Donc il faut faire les choses dans le bon ordre. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Pour réussir son site internet. Alors, la question est assez simple, hein, mais quand vous créez une maison, vous commencez par le peintre ou par l'architecte? Tout le monde est bien réveillé. Donc, par l'architecte. Pourquoi? Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, griller les étapes et commencer à monter des murs ou à les peindre, alors que de toute façon, vos fondations ne sont pas bonnes, votre maison, dans 2-3 ans, peut-être même beaucoup plus tôt, va s'effondrer. Et il va falloir recommencer à zéro. Donc, vous allez perdre du budget parce qu'il va falloir refaire ce que vous aviez plus ou moins fait au début. Et vous avez perdu 1, 2, 3, 4 ans. Voilà. Et sur ces temps-là, vos concurrents, eux, n'ont peut-être pas perdu ce temps-là. Il y a toujours la même base. Il va falloir définir la stratégie. Qu'est-ce que je vends? À qui je le vends? Comment je le vends? Combien je le vends? Quelle est ma marge? Quelle doit être ma rentabilité pour que je sois pérenne? Ensuite, comment, à partir de mon site, je fais passer l'internaute à l'action? Donc là, on va être plutôt sur des notions d'ergonomie et de stratégie, à savoir, est-ce que j'ai un site e-commerce, donc mon but, c'est de le faire acheter? Comment je le fais passer de la page d'accueil, s'il arrive sur la page d'accueil, à mon panier complété et validé. Si votre objectif, c'est de faire téléphoner les gens sur une plateforme d'appel ou sur votre service d'accueil, comment je le fais passer à l'accueil? Est-ce que je dois mettre un bouton de call to action tout de suite? Est-ce que le numéro doit être un numéro gratuit? Est-ce que ça doit être un numéro payant? Est-ce qu'il doit être caché derrière un bouton pour traquer le numéro? Est-ce que je mets en place une solution de call tracking? Ce que je vous recommande. Et est-ce que mon but, c'est simplement qu'on me fasse des demandes mail ou des demandes de devis? Ensuite, comment et où je capte ma cible? Aujourd'hui, de la base de tout site internet, après le développement et un site qui soit ergonomique, ça va être le référencement naturel. À ce niveau-là, au niveau du référencement naturel, hein, dans la création de son site ou dans, voilà, dans la mise à plat de sa stratégie digitale, il va y avoir la partie technique et la partie lexicale. La partie technique, c'est comment les robots d'indexation, donc Google, Bing, etc., Quant, Yahoo même, maintenant encore, toujours, vont interpréter mon site. Aujourd'hui, nous, on voit un site avec des belles images, etc. partout. Un robot, il voit qu'une page remplie de lignes de code que moi, je ne sais pas interpréter. Je sais trouver quelques éléments. Discommerce un peu plus que moi, je pense. Mais voilà, aujourd'hui, un moteur d'indexation ne voit pas du tout ce que vous voyez. Donc, il faut qu'il trouve au bon endroit les bonnes informations. Et les bonnes informations, ça va se baser sur la partie lexicale. Le lexical, aujourd'hui, alors ça paraît bête comme ça, mais il va falloir choisir les bons mots-clés. Aujourd'hui, vous avez tous la tête dans le guidon dans vos entreprises. Il faut réussir à prendre du recul et se dire, est-ce que tel mot-clé que je pense ultra stratégique pour moi, qui me ramène des ventes, déjà, est-ce que c'est celui-là qui me ramène des ventes, ou est-ce que c'est son synonyme? Quand j'aurai fait ça, déjà, je saurai lequel des deux choisir. Derrière, il va falloir le mettre en face de, est-ce que les gens recherchent ce mot-là? Si j'utilise un mot qui est utilisé, enfin qui est recherché 200 fois par mois, alors que son synonyme est recherché 600 fois par mois, il va falloir placer le curseur au bon endroit. Ça, c'est valable pour l'ensemble de votre site, pour toutes les pages, pour toutes les balises, pour tous vos titres et vos méta-descriptions. Donc, la partie technique et lexicale, c'est vraiment les deux premiers piliers à travailler en référencement naturel. Quels indicateurs pour suivre les résultats? Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on peut tout suivre aujourd'hui sur le digital, sur Internet. Il y a plusieurs outils de mesure. Je pense que tout le monde connaît Google Analytics, qui est le plus répandu. Maintenant, il y a Google Tag Manager, il y en a plusieurs. Il faut pouvoir tout suivre parce que c'est ce qui vous permettra de prendre les bonnes décisions derrière. Et de savoir déjà si ce que vous avez mis en place fonctionne, si c'est perfectible, pouvoir le perfectionner. Et si ce n'est pas le cas, bah, prendre les bonnes décisions. Il y aura des exemples concrets à la fin pour les quatre leviers principaux dont on va parler aujourd'hui. À partir de là, vous allez rédiger votre cahier des charges. Donc là, vous avez votre cahier des charges pour créer un bon site ou pour refondre votre site. Vous faites développer le site. Il faut s'assurer que le site respecte le cahier des charges. Donc ça, sur la partie de MediaVeil, typiquement, on s'assurerait que le cahier des charges de référencement naturel soit respecté. Sur la partie technique, c'est l'agence qui développe le site qui s'en charge. Et le client, hein, sur toute la phase de recettage. Et maintenant, on peut commencer la stratégie. Alors, la stratégie, elle a un peu commencé en amont, hein. On n'a pas fait cette étape pour lancer un site en se demandant s'il va marcher. Tout a été fait, si on a bien respecté ces étapes, pour que ça fonctionne. Et ensuite, il va falloir continuer à travailler ce référencement naturel. Le référencement naturel, c'est un levier qui se travaille à moyen long terme. Si vous commencez à travailler du référencement naturel aujourd'hui, vous travaillez pendant 6 mois, en se disant, bon, bah, c'est bon, j'ai fait le boulot, le technique c'est bon, le lexical c'est bon, j'ai lancé un petit peu de netlinking, un petit peu de contenu, je suis tranquille pendant un an et demi. Mais globalement, aujourd'hui, voilà, si vous commencez à travailler du référencement naturel et que vous arrêtez dans 6 mois, petit à petit, donc vous aurez progressé, mais petit à petit, vous allez redescendre. Pourquoi? Parce que vos concurrents, eux, n'arrêtent pas. Les moteurs d'indexation changent leurs algorithmes. Google a encore changé un algorithme sur la santé. Ça vous concerne peut-être un peu moins, je ne sais pas s'il y a des gens dans la santé. Mais voilà, l'algorithme de Google a encore été profondément changé il y a un mois. Donc ça change tout le temps. Les bonnes pratiques évoluent tout le temps. Il faut toujours le travailler. Le contenu, sur la partie référencement naturel. Aujourd'hui, le contenu, c'est le pétrole de la voiture. Hein. C'est-à-dire que il faut publier régulièrement du contenu sur votre site. Si vous ne le mettez pas à jour, Google, il va venir voir votre site régulièrement. Et puis, au bout d'un moment, il va voir que c'est la même chose depuis un mois, deux mois. Il va passer de moins en moins souvent. Et puis, il finira par passer tous les deux, trois mois. Si dans ces deux, trois mois-là, vous avez fait une modification majeure, lancé un nouveau produit, changé une catégorie, arrêté un produit, changé vos prix, finalement, l'indexation qui va se faire là-dessus, elle va prendre une inertie de un mois, deux mois. Et après avoir pris cette inertie-là, le temps que Google indexe tout ça, il va encore se passer un mois et demi, deux mois, voire trois mois. Donc, lancer une stratégie de référencement naturel, il ne faut pas se dire que vous aurez les résultats demain, c'est faux. Ce sera aux alentours de trois mois, c'est ce qu'on constate dans les cas moyens. Donc le contenu, mettez à jour votre contenu, publiez du contenu, mettez en place un blog. Plus vous allez créer de contenu sur votre activité, déjà plus vous allez renforcer votre image d'expert sur votre domaine. Et la deuxième chose, c'est que vous allez forcément élargir votre champ lexical, donc toute la partie sémantique, et Google va vraiment interpréter votre site comme étant expert de son domaine, avec du contenu régulier, etc. Vous capitalisez là-dessus parce que c'est quand même toujours des contenus que vous pouvez publier sur vos réseaux sociaux, faire des partages, créer toute cette visibilité, cette notoriété de marque et d'image autour de ça. L'avantage sur un site e-commerce, pour ceux qui ont un site e-commerce, c'est que normalement les produits bougent. Il y a toujours des ruptures de stock, il y a des produits qui sont plus dispo, des renouvellements de gamme. Donc ça apporte de la nouveauté sur le site. Maintenant, pour moi, ça n'empêche pas et ça suffit. Enfin, il ne faut pas se contenter de ça. C'est-à-dire que le blog par-dessus est toujours une bonne stratégie. En général, on recommande de publier un à deux contenus par mois, voilà, pour être dans une bonne dynamique. Plus il y en aura, mieux c'est. Et quand on dit publier un contenu, hein, l'idée, alors, il y a une époque, ça fait 10 ans que je suis sur le digital, finalement, c'est pas si vieux que ça, mais il y a 10 ans, on voyait beaucoup de sites où on plaçait du mot-clé partout. Et même en bas de page de site, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on voyait quasiment des fois ton sur ton, tous les mots-clés possibles et imaginables d'un site. Ça, aujourd'hui, maintenant, c'est complètement blacklisté. Si vous faites ça, pénalité Google. Et pour sortir d'une pénalité Google, c'est juste l'enfer. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est-à-dire qu'il faut les placer au bon endroit. Il existe plusieurs outils gratuits sur Internet où vous pouvez indiquer votre page et faire un petit état des lieux. Est-ce que j'utilise assez de mots-clés? Comment Google voit ces mots-clés? Alors, je dis Google, mais c'est 90% de la part de marché. Mais bon, il y a Bing et tous les autres qui fonctionnent sur la même base. Vous pouvez mettre l'URL de votre page, savoir comment Google l'interprète, quels sont les mots-clés qui pour lui ressortent le plus, qui sont mis en avant. Et si vous voyez que c'est décorrélé par rapport à ce que vous voulez faire passer, vous pouvez ajuster la stratégie de votre contenu là-dessus. Et le netlinking, c'est un moyen un peu détourné de détourner l'algorithme Google. Pourquoi ? Alors il faut le faire très subtilement, parce que sinon encore une fois pénalité, mais globalement le netlinking c'est tous les liens qui vont être passés sur d'autres sites et qui vont faire un lien chez vous. Aujourd'hui, typiquement, la CCI de Lyon fait des liens vers beaucoup d'entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il y a un annuaire d'entreprises. Tous les liens placés sur la CCI qui vont rediriger vers une entreprise, ça va être considéré comme un backlink, un lien externe, et ça fait partie d'une stratégie de netlinking. Alors en l'occurrence, ça va être des backlinks qui vont être naturels. C'est la CCI qui décide de placer un lien dans son annuaire vers les entreprises. Ça sert à toutes les entreprises lyonnaises. Cela dit, aujourd'hui, on peut gérer le netlinking différemment. C'est-à-dire qu'on va acheter des liens sur des sites qui eux-mêmes font autorité sur un domaine. Je vais prendre le domaine du jouet. Aujourd'hui, moi j'ai un client dans le jouet. Il avait besoin de renforcer sa popularité. Donc je vous dirai exactement quel est l'impact après du netlinking. Mais d'abord, comment ça marche ? Il avait besoin de renforcer sa popularité. Ce qu'on a fait, c'est qu'on allait chercher des éditeurs de sites dans le jouet. Donc, on a trouvé un qui parlait que de Playmobil. Alors, attention, c'est un vrai business maintenant. Il y a des gens qui ne créent que des sites pour vendre des liens. Donc, un lien, ça peut se vendre une dizaine d'euros jusqu'à 1500 euros. Le Monde vend des liens. Libération vend des liens. Tous les grands médias vendent du lien. Donc, voilà, il faut bien voir que ça peut être des liens sur des petits sites ou des très gros sites. Donc, on est allé sur un site qui parlait beaucoup de Playmobil, qui avait une très forte popularité sur le Playmobil. Donc c'est quelqu'un qui a créé un site qui publie 4 articles par mois en parlant du Playmobil. On a mis un lien sur le site, sur ce site-là, qui repointe vers le site de mon client qui vend des jouets. Et ça va améliorer sa popularité sur la vente de Playmobil. Donc à quoi ça sert ? C'est juste une pédale d'accélérateur du référencement naturel. Google va juste se dire, ce site en lequel j'ai beaucoup confiance fait un lien vers un site qui vend du jouet. Et je vais transférer finalement un peu de la confiance que j'ai sur un site A vers le site B. D'accord ? C'est assez complexe dans l'idée, mais finalement, ça fonctionne assez simplement. C'est un transfert de popularité. J'ai très confiance dans un site qui fait un lien vers un autre site. C'est comme une recommandation que je pourrais faire à un ami. Va chez tel marchand, ses produits sont super. C'est la même chose, mais sur du digital. Aujourd'hui, ces liens s'achètent. Et le curseur, si vous devez vous lancer dans une stratégie netlinking, il va falloir faire déjà un point d'étape, c'est-à-dire où est-ce que vous en êtes, combien de liens pointent vers votre site et quel est votre score de qualité. score de confiance. Donc on appelle ça le trust flow, l'indice de confiance. Il va de 0 à 100. Quand on a un trust flow déjà aux alentours de 20, on est déjà vraiment pas mal. Aujourd'hui, les Le Bon Coin, etc. sont aux alentours de 80-90. Mais ils ne sont même pas à 100. Alors c'est quand même des gros, gros sites. Donc si vous avez un très faible indice de confiance, 2-3, que vous avez 10 000 liens sur votre site, il va falloir placer le curseur. Il ne faut pas faire x2 en lien la première année parce que ça ne paraît pas naturel et on est toujours dans le référencement naturel. Donc l'idée, ça va être de placer le curseur entre qualité des liens, donc choisir des sites qui ont un indice de confiance et une popularité aux yeux des moteurs de recherche plus forte que la vôtre pour que ça vous serve, et ajuster en termes de volume de liens. Aujourd'hui, on prime plus sur la qualité, enfin l'avantage est donné sur la qualité que sur la quantité. Plutôt choisir des liens qualitatifs plutôt que d'en faire 200 la première année. L'idéal, c'est 2-3 liens par site. C'est à peu près le ratio qu'on doit avoir. Une fois qu'on a géré la partie référencement naturel, donc technique lexicale pendant la refonte du site ou pendant la création du site, qu'on a géré la partie contenu et netlinking sur du moyen long terme après avoir lancé son site, on va pouvoir commencer à acheter de l'audience. Acheter de l'audience, il y a plusieurs canaux. Référencement payant, Google et Bing Ads. Donc là, on parle des trois premières annonces que vous avez quand vous faites une recherche en haut. On parle des deux ou trois dernières que vous avez tout en bas de page. On parle toute la partie Google Shopping aussi, qui est payante. C'est-à-dire qu'à chaque clic, vous payez X centimes pour ce clic, que la personne achète ou pas. Vous avez tout ce qui est référencement payant sur les réseaux sociaux. Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads. YouTube, voilà, toutes les publicités qu'on peut avoir sur la partie réseaux sociaux, à savoir que là-dedans, j'inclus tout ce qui est sponsorisation de posts. Vous pouvez faire des posts sur vos pages Facebook, Instagram, vous pouvez les sponsoriser pour qu'elles soient vues d'un plus grand nombre, élargir l'audience, ça rentre dans la partie social ads. Vous pouvez aussi mettre des stratégies pour avoir plus de fans sur votre page. Si vous avez plus de fans sur votre page, à chaque post, ça va faire boule de neige, c'est-à-dire que de plus en plus de monde vont voir vos posts. Les marketplaces, aujourd'hui, en e-commerce, la marketplace, c'est un vrai sujet. Pour prendre que le cas d'Amazon, que tout le monde doit connaître, aujourd'hui, on peut faire du référencement naturel dans Amazon. C'est-à-dire qu'on va gérer le référencement naturel sur Amazon. On va pouvoir gérer du référencement payant dans Amazon. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une page d'un shop, d'un store sur Amazon. Vous pouvez gérer du référencement naturel pour apparaître mieux sur Amazon. Alors Amazon, chacun a son avis sur le sujet, les commissions qu'ils peuvent prendre, etc. Il y a de la possibilité de faire du référencement naturel, du référencement payant sur Amazon. Et c'est une vraie stratégie aujourd'hui si vous voulez lancer sur une marketplace, en fonction de votre rentabilité, ça peut valoir le coup. L'affiliation, donc là globalement on va se servir, de la caution d'une entreprise déjà existante pour s'affilier à elle et générer plus de ventes. L'avantage de l'affiliation, c'est qu'il y a plusieurs modèles, mais le modèle le plus intéressant, c'est le modèle à performance, c'est-à-dire que vous ne payez que s'il y a du chiffre d'affaires qui est fait sur votre site et vous reversez une commission qui est négociée avec la plateforme d'affiliation au démarrage. Donc, l'avantage, c'est que finalement, il n'y a pas de risque, vous savez combien vous allez reverser de chiffre d'affaires. Si sur ce chiffre d'affaires, la part que vous reversez, elle vous laisse encore une marge, ça reste bénéfique. L'affiliation, il faut le gérer subtilement aussi. Dans le cadre d'un lancement de marque, c'est compliqué de faire de l'affiliation parce qu'on ne vous autorisera pas un modèle à la performance. Vous aurez un modèle qui sera couplé entre le coût par clic et de la performance parce que la plateforme d'affiliation, elle vit quand même de ça. Elle a besoin que vous fassiez des ventes pour vivre. Donc voilà, elle ne peut pas se permettre d'envoyer un emailing sur toute sa base de données ne sachant pas s'il va y avoir une seule vente derrière. Ensuite, il va être possible d'augmenter la transformation de ses contacts. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 98% des personnes qui viennent sur votre site ne convertissent pas. Donc en gros, il y en a, voilà, le taux de conversion moyen sur un site e-commerce, c'est entre 1 et 2,5, on va dire. Donc aujourd'hui, on va pouvoir recibler ces gens-là. Je pense que tout le monde y a été confronté. Vous allez sur un site e-commerce, vous faites un panier, vous ne finalisez pas votre panier, vous le laissez. De toute façon, la plupart du temps, il est enregistré. Vous y retournez, vous retournez sur Internet le lendemain, vous allez sur un autre site qui n'a rien à voir, un site de médias, vous allez regarder un peu les news sur Lyon, et là, vous allez voir votre panier qui s'affiche à droite. Donc ça, c'est du retargeting. Ça peut être énervant à titre perso, ça marche super bien à titre commercial. C'est-à-dire que le retargeting, aujourd'hui, en référencement payant, c'est le levier qui va être le plus rentable. Donc ça peut être fait avec de la bannière, hein, ça peut être fait en dynamique, donc on va reprendre les produits qui sont dans votre panier, ça nécessite d'avoir un bon flux produit, mais ça se fait très bien. Et c'est possible de le faire par mail, c'est encore plus puissant par mail, c'est simplement pas les mêmes budgets, mais on est capable de croiser avec le cookie de l'internaute, avec les cookies qu'on peut avoir en base de données, et donc rattacher un adresse email, envoyer un email de retargeting. Là on est quand même sur le retargeting mail, je vous disais tout à l'heure de faire les choses dans l'ordre. On ne va pas se lancer à faire du retargeting mail tant que de toute façon, on n'a même pas de retargeting ou on ne fait même pas de payant. Le drive to store, si vous avez une boutique physique aujourd'hui et depuis là maintenant un mois et demi, y a une nouvelle option sur les campagnes Google Ads qui nous permet de un peu mieux quantifier le drive to store. Ça fonctionne à la fois avec Google Maps et à la fois avec la position sur votre téléphone si elle est activée. Si vous êtes dans un rayon autour du magasin que vous avez visité sur Internet avant, on va pouvoir attribuer une vente. Il y a toujours un delta, hein. Honnêtement, le calcul, moi je ne suis pas fan, il y a forcément un écart. Vous pouvez aller chez le concurrent en face, Google va juste dire que votre campagne Google Ads avec l'objectif Drive to Store a fonctionné. Mais aujourd'hui, voilà, on peut rediriger assez facilement des personnes venues via du digital dans votre boutique avec tout simplement des coupons à télécharger mais à valoir qu'en boutique. Derrière, vous pouvez le tracer parce que l'utilisation d'un coupon en boutique, vous pouvez savoir exactement par quel biais vous l'avez envoyé. Que ce soit du mailing, hein, vous pouvez mettre des coupons avec, on va dire, un préfixe différent pour un mailing, avec un préfixe différent pour une campagne display, avec un préfixe différent pour une campagne search. Donc search, les annonces textuelles, référencement payant sur Google. Et on va pouvoir relancer les prospects et les abandonnistes. Vous avez une base de données, il faut pouvoir la segmenter. Si vous arrivez à la segmenter, vous êtes capable de faire un mailing différent aux personnes qui vous ont quitté, qui n'ont pas acheté depuis 3 ou 4 mois, et de les relancer pour qu'ils redeviennent clients. Et les prospects qui n'ont pas acheté, de leur faire peut-être une petite offre de bienvenue, mais il n'a pas acheté la première fois, il a créé un compte, AJ+2, je vais envoyer un mail automatique, hein, tout ça, c'est pas à la mano, hein, c'est du marketing automation, on automatise tous ces process-là. Il y a un flux qui se fait avec votre base de données, on est capable de dire telle personne a créé un compte à J0, à J+2 elle n'a pas commandé, on va lui envoyer une petite offre de bienvenue de 5 euros. Et ensuite, il va falloir fidéliser ses clients, s'assurer qu'on ait un bon service ou un produit, je pense qu'on est tous convaincus des produits qu'on vend. Entretenir une relation dans la durée et ultra personnalisée. J'étais à Click & Shop la semaine dernière, on a parlé de fidélisation. Aujourd'hui, on est dans l'ultra personnalisation. Ce que je disais au début, envoyer le même mail à toute sa base de données, c'est plus possible. Il faut qu'on soit capable de distinguer, et même dans un même foyer, si on a deux adresses mail, des parents et des enfants par exemple, ça peut exister sur certaines activités, il ne faut pas envoyer les mêmes communications, il ne faut pas parler à madame comme à monsieur. On peut pas, voilà, c'est pas possible. Donc vraiment personnaliser, pour personnaliser, récolter de la bonne donnée, s'assurer qu'elle soit fiable et la segmenter. Et augmenter la valeur client. Aujourd'hui, on parle de RFM. Il y a trois critères qui vous permettent de savoir combien vous rapporte un client. Il y a la récence, c'est-à-dire combien de temps il achète, la fréquence, tous les combien de temps il achète, et le montant, combien il achète à chaque fois. Là, il y a un petit exemple qui est très parlant. Aujourd'hui, si vous avez un client qui est fidèle 5 ans au lieu d'être fidèle, s'il achète pendant 5 ans au lieu d'acheter pendant 4 ans, s'il achète tous les 4 mois au lieu d'acheter tous les 6 mois, et s'il achète pour 33 euros au lieu d'acheter pour 30 euros, vous doublez votre chiffre d'affaires sur la période donnée. Donc aujourd'hui, l'objectif dans la stratégie de fidélisation, hein, juste après, ça va être de le faire rester plus longtemps chez moi, qu'il achète un peu plus souvent et qu'il achète un petit peu plus. Et donc là, on va être sur des stratégies d'upselling, de cross-selling. Sur des sites e-commerce, ça se voit très bien, hein, on est sur un panier et il y a souvent une petite bannière, les personnes qui ont acheté ce produit ont aussi consulté tel produit. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal au niveau du panier aussi, des petits produits complémentaires. Là, je mets juste un petit point d'attention dans votre panier. L'objectif, c'est qu'il aille jusqu'au bout et qu'il achète. Il ne faut pas trop le parasiter, il faut le mettre en quarantaine. Limite, il ne faut plus qu'on voit le menu. Le menu, c'est autant de portes de sortie. Quand vous êtes sur Amazon, vous n'avez plus votre menu, hein, quand vous êtes dans le panier. Vous pouvez retourner à la page d'accueil, mais vous n'avez plus toutes vos catégories. Hein. Pourquoi ? Parce que ça change énormément leur taux de conversion. Ils ont multiplié par 2 leur taux de conversion en changeant le texte qu'il y avait sur un bouton Amazon. Et quand Amazon multiplie son taux de conversion par 2, ça fait beaucoup. Hein. Voilà. Donc, je reviens un petit peu sur l'ergonomie, mais récence, fréquence et montant. Donc, combien de temps il achète, tous les combien de temps il achète et pour combien il achète. Si vous arrivez à faire progresser ces trois indicateurs-là, vous augmentez votre valeur client sur toute sa durée de vie et donc vous augmentez votre chiffre d'affaires. Sachant qu'on parle là de clients, que ces clients, vous avez payé pour les acquérir. Ça coûte 10 fois plus cher d'acquérir un client que de le fidéliser. Donc, à partir du moment où vous l'avez acquis, il ne faut pas le lâcher, quoi. Développer sa communauté, j'en parlais tout à l'heure sur la partie social media. On va rechercher des avis, on va rechercher de la caution des gens qui sont un peu comme nous, de nos amis. Il faut créer sa communauté, l'animer avec des jeux concours, avec des posts assez réguliers, avec, si c'est le positionnement de votre entreprise, un ton un peu décalé, ça marche pas mal, on en voit beaucoup maintenant. Une fois qu'on l'a faite, il faut la développer et voilà, et l'animer. L'idée, c'est de la faire grandir, mais il ne faut pas la faire grandir juste pour la faire grandir. Il y a eu des crise entre guillemets il n'y a pas si longtemps que ça sur des gens qui achetaient des fans, donc c'était des fermaclics, hein, des faux profils qui allaient devenir fans d'une page. Alors oui, moi j'arrive sur la page, je vois qu'il y a 10 000 fans, je me dis ouais, c'est sérieux, je me mets à la place de l'entreprise, ces 10 000 fans à part me faire passer pour sérieux, qu'est-ce que ça m'apporte? Je ne suis pas sûr que ça apporte grand chose. Donc aujourd'hui ça c'est vraiment sanctionné, éviter d'acheter des fans. Par contre, on peut recruter des fans réels avec des stratégies d'enchères et de publicité sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Alors oui, alors il y a du display sur Facebook, mais le display peut être fait pour faire du fan. Le display sert un peu plus quand même sur Facebook, Instagram, soit pour générer du trafic sur le site, soit pour générer de la vente alors, ou du devis. Aujourd'hui, on peut faire des campagnes Facebook Leads, notamment sur Google, sur Facebook, qui marche très bien, je sais pas, dans le cadre de l'IMO, où on va rester dans la plateforme Facebook et on va avoir 3-4 questions comme un formulaire de demande de devis ou de demande de contact sur un site. L'avantage, c'est qu'on reste dans la plateforme Facebook, on ne sort pas et que les éléments sont déjà pré-remplis. Donc, on a beaucoup plus de demandes. La contrepartie, c'est que c'est un peu moins quali. Par contre, sur la partie développer sa communauté, pour recruter des fans, il existe des formats spéciaux sur Facebook où on peut aller choisir l'objectif recruter des fans. Donc le petit bouton, le call to action, le petit bouton d'appel à l'action, c'est devenir fan, consulter la page et non pas aller vers le site ou acheter. Donc en fait c'est juste le paramétrage de l'annonce qui est différent et qui met pas le même bouton. Et forcément on adapte le message, on n'a pas le même message si on veut faire acheter que si on veut faire aimer sa page. Si on veut faire aimer sa page, on va mettre en avant ses valeurs, sa communauté, le ton de sa communication, la proximité. Alors que si on veut faire acheter, on va être un peu plus commercial, plus peut-être présenter le produit, les bénéfices produits, voilà, être un peu plus direct. Et dans le développement de la communauté, alors, ou dans la notoriété, il y a aussi tous les avis clients. On parlait de communauté, il y a pas mal d'avis maintenant sur Facebook, etc. Mais les avis clients, il y a des modules d'avis certifiés. Aujourd'hui, moi, titre perso, je les regarde tout le temps. Je regarde plutôt les mauvais que les bons, parce que les bons, bah, ok, c'est très bien, j'avais déjà eu un bon a priori. C'est les mauvais qui m'intéressent. Est-ce que les mauvais, je les considère comme des avis objectifs? Est-ce que pour moi, c'est vraiment un problème, ce qui est remonté dans l'avis qui est négatif? Peut-être pas. Aujourd'hui, les modules d'avis vous permettent, un, de rassurer vos visiteurs, quand on le voit sur votre page, alors il faut avoir des bons avis, mais de rassurer le visiteur, donc d'améliorer votre taux de conversion. Et deux, ça améliore votre notoriété et votre référencement naturel. Référencement naturel, pourquoi? Parce que la plupart des plateformes qui génèrent des avis comme ça créent un lien de certification, c'est pas le mot, mais de formulaire, en fait, de page entreprise qui récolte tous les avis. Et ça fait un lien supplémentaire. Quand on tape avis, le nom de la marque, c'est quasiment la première qui arrive. Et ça, c'est très rassurant. Et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, on peut utiliser les étoiles, donc les évaluations, hein, pour avoir des résultats enrichis, ce qu'on appelle des rich snippets en référencement naturel, des petites étoiles à côté des résultats de recherche. Ça, c'est valable en référencement payant. Quand on voit les petites étoiles et que le concurrent à côté, il n'y en a pas ou que c'est moins bon, on va plus vers les petites étoiles. Déjà, visuellement, on le voit mieux et puis c'est un peu plus rassurant. Et en référencement naturel, c'est la même chose. Donc les avis, aujourd'hui, il y a plein de modules qui existent. Ils sont tous, franchement, à peu près équivalents. Les prix diffèrent. Il faut juste avoir quelques petits éléments en tête qui soient certifiés. Et que vous puissiez utiliser, qu'ils aient des partenariats avec les moteurs d'indexation pour que vous puissiez utiliser ces étoiles-là dans vos résultats de recherche. Et une fois qu'on a fait toute la partie ergonomie du site, les gens qui arrivent, ils convertissent. Une fois qu'ils convertissent, j'amène plus de monde, d'abord en naturel, après en payant. Et ben après, je vais pouvoir aller stimuler le besoin, le fameux stimulus dont je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, là, on va être sur des leviers qui vont être des leviers de bannières, donc ce qu'on appelle le display hein, sur Internet, toutes les bannières qu'on peut voir de pub un peu partout. On va être sur la radio, sur le TV, la télévision en replay, sur l'affichage, sur la presse. Voilà, tous les leviers, on va dire, d'image qui ne sont pas faits en intention 1 pour faire de la vente, mais plutôt pour faire de l'image, de la visibilité, de la notoriété, qui in fine va être au service de votre vente. Ce n'est pas des gens qui vont venir sur votre site qui vont convertir aujourd'hui. Par contre, ces gens qui vont venir sur votre site, déjà, un, vous pourrez les recibler après, donc on parlait de retargeting tout à l'heure, et deux, bah, ils vont connaître votre marque. La deuxième fois, ils ne vont peut-être pas venir par une bannière display, ils vont peut-être venir parce qu'ils se rappelleront de votre marque, ils vont la taper directement, donc via du référencement naturel. S'ils vont un peu plus loin, qu'ils ont mis votre site en favori, ils vont y aller directement à partir de leur onglet favori, et ça va être non plus un accès via du référencement naturel, mais via de l'accès direct. Et on va voir pourquoi après c'est important cette distinction au niveau justement web analyse, analyse des données, parce qu'aujourd'hui les parcours sont multiples. Alors quelques exemples, je pense qu'ils vont peut-être parler un peu plus. L'ergonomie, elle est faite pour augmenter votre taux de conversion. Aujourd'hui, mettons que vous faites 500 000 euros, votre taux de transformation il est à 1% et que vous investissiez 50 000 euros, alors en ergonomie ou autre, peu importe, si votre taux de conversion passe à 1,5%, votre CA il arrive à 750 000 euros. D'accord ? On est sur 0,5 points, hein. c'est beaucoup parce que franchement au-dessus de 3%, il y a assez peu de sites aujourd'hui. Moi j'étais chez un annonceur, on était à 10%, mais pourquoi ? Parce que c'était la fidélité qui rentrait là-dedans. Et comme on n'arrivait pas à l'époque de dissocier la visite d'un client fidèle avec la visite d'un nouveau client, on partait sur un taux de conversion à 10%, donc on pensait qu'on était bien. Non, le taux de conversion réel d'un nouveau client, d'un quelqu'un que je ne connais pas, d'un prospect, il était aux alentours de 1,5. Donc aujourd'hui, voilà, il y a un réel enjeu. Aujourd'hui, dépenser de l'argent pour faire venir des gens sur votre site, s'ils ne trouvent pas le bouton pour acheter ou prendre contact avec vous, c'est juste de l'argent dépensé qui ne vous servira pas. Alors souvent, tout à l'heure, je prenais l'exemple des couleurs, mais c'est souvent le cas. Je veux un site qui soit super joli, avec plein de couleurs, etc. Pour nous, ce n'est pas vraiment une bonne habitude. L'idée, c'est plutôt d'avoir une approche déjà utilisation. Comment mes visiteurs utilisent leur... comment ils arrivent sur mon site. Est-ce que c'est plus une population qui utilise un téléphone ou un ordinateur? Typiquement, si ma cible elle est un peu plus âgée, eh ben, on va peut-être faire attention un peu plus à la version ordinateur parce que le mobile, ça se démocratise, mais c'est encore pas au niveau de, des populations un peu plus jeunes, on va dire. Comment mes clients doivent venir sur mon site? Voilà, ça doit driver la stratégie. Et s'adapter, aujourd'hui, hein, il n'y a plus un site correct qui sort qui ne soit pas responsive. Alors la tablette, c'est en perte de vitesse. Quand vous développez un site qui est adapté mobile, il sera adapté sur tablette, sauf franchement problème de développement, mais ça n'arrive très peu, et il sera adapté sur ordinateur. C'est pour ça que, c'est la slide juste après, mais dans l'ordre, la méthode de travail qui est la plus efficace, c'est quelle est la page qui est la plus proche de la conversion? C'est le panier. Alors, il y a le module de paiement, mais avant, c'est le panier. C'est au moment où on va cliquer sur le produit, le bouton achat. Donc nous, on commence par travailler le panier. Quand le panier est parfait, on va commencer à travailler la fiche produit. Pourquoi ? Parce que c'est l'étape juste après, juste avant. Quand la fiche produit est bien travaillée, on va travailler la page de listing produit, donc le filtre. Je cherche tel produit, on m'en propose 15. C'est la page de résultats de recherche. Et après, on va travailler la home page. Pourquoi on travaille la home page en dernier alors qu'on pourrait se dire c'est la vitrine de mon entreprise? La home page, pourquoi on la travaille en dernier? Parce que finalement, pour nous, un, c'est la page la plus éloignée. Et deux, quelqu'un qui arrive sur votre page d'accueil, c'est soit qu'il est venu en tapant votre nom de marque, parce qu'il arrive sur votre page d'accueil s'il tape votre nom de marque, donc il vous connaît déjà, donc il est plus proche de convertir. Finalement, quelqu'un qui est sûr d'acheter chez vous, moi, il m'intéresse un peu moins que celui que je veux faire acheter chez vous et qui ne vous connaissait pas. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, il va plutôt partir de son besoin qui est « j'ai besoin d'un plombier ». Il ne va pas dire « je veux le plombier qui est à tel endroit » avec le nom du plombier. S'il cherche un plombier, si votre référencement naturel est bien fait et vous l'avez fait bien avant parce que vous avez suivi toutes les étapes, s'il cherche un plombier, la page de redirection, quand il va cliquer sur votre lien, il doit arriver quasiment sur la page de contact. Et la page de contact, si on prend le cas d'un plombier, c'est la page panier, hein, c'est la page de demande de devis ou être rappelé. Donc ce n'est pas la page d'accueil. Quelqu'un qui ne vous connaît pas n'est pas censé arriver là. S'il arrive là, c'est que vous avez très peu de pages sur votre site ou que le référencement naturel n'est pas fait correctement. C'est pour ça qu'on la traite en dernier. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on la traite moins bien. Hein. C'est juste que dans le process, nous, c'est la vente qui nous intéresse. Et on commence toujours par le mobile. On fait la tablette. Aujourd'hui, honnêtement, cette case-là, on la supprime quasiment tout le temps. Et après, on travaille la partie ordinateur. C'est beaucoup plus compliqué de faire rentrer une page sur un mobile que sur un PC. Donc aujourd'hui, on commence par le mobile. Si on arrive à le faire sur mobile, après, on va juste avoir que plus de place. Donc c'est pour ça qu'on le fait dans cet ordre-là. Au niveau du référencement naturel, petit exemple, de la même manière, si votre CA, c'est toujours 500 000 euros, que votre nombre de visites via le SEO, donc qui est le référencement naturel, hein, c'est un anglicisme, j'aurais dû l'enlever celui-là. Si vous avez 200 000 visites via le référencement naturel, que demain vous augmentez de 20% votre nombre de visites, vous n'aurez pas dépensé plus, mais vous aurez 600 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, j'ai mis gratuitement entre guillemets, parce que ça vous coûtera toujours quelque chose de travailler du référencement naturel. Soit vous le faites vous-même, ça vous coûtera du temps, soit vous recrutez quelqu'un et vous devrez le payer, soit vous passez par une agence et vous devrez la payer. Mais en tout cas, Mediavé fonctionne comme ça, c'est à chaque fois une charge qui est relativement fixe, peu importe ce qu'elle vous amène. Donc si, au lieu de vous amener 20, elle vous amène 25, vous êtes d'autant plus rentable sur ce poste-là. Le référencement naturel n'est pas indexé au trafic que vous renvoyez. Le référencement, oui. Plus vous allez dépenser d'argent, plus vous allez avoir de visites, puisque c'est un coût par clic. Le référencement naturel, si votre budget pour travailler du référencement naturel, c'est 10 000 euros, que ça vous rapporte plus 20, plus 25 ou plus 30%, ce sera le même budget. Ce sera le même si ça vous rapporte plus 15, hein, mais c'est une charge fixe. Donc le référencement naturel, c'est les résultats qui sont en dessous des résultats payants. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, sur mobile, c'est très important d'avoir en tête quand même le référencement payant, parce que sur un mobile, la plupart du temps, le référencement naturel, on ne le voit pas. Donc si vos concurrents font du référencement payant et pas vous, parce que vous misez tout sur le référencement naturel, vous perdez quand même pas mal de visibilité. Il y a une synergie référencement naturel, référencement payant. Hein. Aujourd'hui, Google ne dit pas de façon transparente et officielle que faire du référencement payant, il va être content, il va vous améliorer en référencement naturel. Par contre, il dit très clairement que si votre référencement naturel n'est pas bon, ça impactera négativement votre référencement payant. Et la deuxième chose, hein, c'est que si vous êtes présent en premier résultat ici et ici, c'est pour ça que c'est pas l'un ou l'autre, hein, si vous êtes présent dans les deux, bah, c'est comme si vous aviez deux panneaux d'affichage au lieu d'un dans une rue. C'est comme si vous aviez deux boutiques au lieu d'une dans la même rue. La visibilité est beaucoup plus importante pour vous. Si la visibilité est plus importante pour vous, il y a plus de chances qu'on clique sur vous. Et c'est autant de place que prennent pas vos concurrents. Donc il y a trois piliers au référencement naturel. Le technique qu'il faut avoir en tête. Alors le technique, ça se passe vraiment dans le back-office du site. Hein. On a parlé tout à l'heure, c'est pendant le projet de refonte, c'est mieux de le mutualiser à ce moment-là ou dans le projet de création. Après, si la base technique n'est pas bonne, même si le site n'est pas prévu d'être refondu, on peut le travailler. Hein. Mais voilà, c'est vrai qu'on le mutualise quand il y a une phase de refonte ou de création. Le contenu, je n'ai pas rajouté le lexical ici parce que bon, il n'y a que trois piliers, j'aurais dû en faire quatre, mais le contenu et le lexical se rapportent un peu à la même chose au niveau sémantique. Hein. On est dans l'écriture. Et le netlinking, donc qui est la popularité. L'ordre d'apparition là est volontaire. Hein. D'abord le technique, ensuite le lexical et le contenu, et qu'après le netlinking. Aujourd'hui, on ne va pas faire des liens qui viennent sur votre site si au niveau technique, il n'est pas à 100%. C'est comme l'architecte et le jardinier tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va assainir la base technique, lexicale et travailler le contenu. Et une fois que vos sites sont super propres, que Google sera très content parce que vous avez un super site, on va faire arriver des liens dessus pour améliorer sa popularité. Alors, il y a des nouveaux usages. Je ne sais pas si vous l'utilisez beaucoup, mais le vocal arrive de plus en plus. On ne recherche pas en vocal comme on recherche en écrivant. On est sur des requêtes qui sont beaucoup plus longues où justement, il va falloir les travailler un peu différemment. Donc ça, c'est des choses, on commence à le travailler depuis assez peu finalement parce que les progrès ne sont pas si vieux que ça sur le sujet. Mais d'ici 2020, la moitié des recherches seront potentiellement vocales. Donc c'est un vrai enjeu, il faut le réfléchir et quand on travaille son site et notamment en contenu, la petite foire aux questions peut être sympa. Pourquoi ? Parce que vous allez poser une question telle que quelqu'un va se la poser et telle peut-être qu'il va la dicter à son téléphone. Si vous avez le bonheur d'avoir comme titre de votre article exactement la question posée par un internaute, vous allez potentiellement avoir la chance d'être en position zéro. La position zéro, c'est avant même cette position-là et avant même celle-là. C'est-à-dire que vous avez quasiment votre réponse ici. Aujourd'hui, vous pouvez faire le test, si vous tapez heure à Lyon, vous allez avoir quasiment la réponse tout de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle la position zéro. Quand on est en position zéro, honnêtement, en termes de taux de clic, si c'est pas 90%, ça doit être 85%, quoi. C'est-à-dire qu'on répond tout de suite à la question de l'internaute. Et ça, Google adore. C'est-à-dire qu'il va vous mettre un petit extrait de votre article parce qu'il répond parfaitement à la requête. C'est très compliqué, mais c'est pour ça que la foire aux questions là-dessus, c'est une bonne astuce pour commencer à mettre le pied sur le vocal. L'analytics dont je parlais tout à l'heure. Alors, l'analytics, c'est toute la partie web analyse, hein, donc analyse des données, on peut tout traquer. Aujourd'hui, si votre objectif c'est de développer de votre chiffre d'affaires et que vous, vous dépensez 10 000 euros sur Google, 10 000 euros sur Facebook, avec la web analyse, vous allez peut-être vous apercevoir que Google vous rapporte 100 000, mais Facebook 40 000. Bon, là c'est assez simple dans l'analyse, mais c'est exactement cet exemple-là, même si on pousse l'analyse, c'est-à-dire que bah, si ça vous rapporte beaucoup plus d'aller sur Google, les 10 000 euros que vous mettiez sur Facebook, vous les mettrez sur Google. Là, vous faites plus 60 000 euros. Ça, sans la web analyse, ou si elle n'est pas fiable, parce qu'il ne s'agit pas de mettre un marqueur analytics et de se dire que ça fonctionne, il faut quand même le tester, savoir si vos ventes remontent, savoir si le chiffre d'affaires remonté sur votre back-office. En général, on prend 10% de marge d'erreur avec celui qui est remonté sur Google Analytics. On peut considérer qu'il est bon sur cette base-là. Tout ça, ça doit être calculé. Et aujourd'hui, on va être capable de dire c'est tel mot-clé qui vous rapporte tant de chiffre d'affaires. Ça, si on n'est pas capable de le dire, ce mot-clé en question, on ne va pas pouvoir vous recommander de l'utiliser beaucoup plus. Vous ne l'utilisez peut-être pas. Et on va peut-être se rendre compte à l'usage que c'est quand même un mot-clé que vous n'utilisez jamais, qui vous rapporte beaucoup en référencement payant. Ça, si vous ne le savez pas et qu'on ne peut pas l'analyser, on ne peut pas vous faire une recommandation correcte sur la partie référencement naturel. Donc là aussi, on est dans le technique, hein, on parle de ce qu'on appelle un tag, qui est un bout de code qu'on doit placer sur chaque page, qui doit remonter un certain nombre d'objectifs qu'on paramètre soi-même pour ce qu'on veut. Donc voilà, dans le cadre d'un site e-commerce, on va aller traquer les produits vendus, le montant du panier, le numéro de la transaction si possible, tous les mots-clés hein, qu'il y a avant, et de savoir après surtout par quelle source. Et ça, on va le voir juste là. Là, je vous ai mis un petit exemple d'un parcours qui peut mener jusqu'à un achat. Aujourd'hui, sans la web analyse, on ne pourrait pas avoir ça. Aujourd'hui, si je pars de mon besoin, donc que je ne connais pas votre entreprise, je vais taper un nom de produit, enfin, un type de produit sur Internet. Et si vous êtes bon en référencement naturel, je vais peut-être arriver sur votre site en cliquant sur un de vos résultats de recherche. Bon, bah ok, je connais votre site. Potentiellement, il répond à mon besoin. Je vais le garder en mémoire ou je le mets en favori. J'achète pas tout de suite. La deuxième fois, je vais peut-être venir via un accès direct. L'accès direct, pourquoi ? C'est je commence à le taper dans ma barre de recherche. Automatiquement, il me le propose. Je fais entrer, j'arrive sur votre site. C'est un accès direct. J'achète toujours pas. Bon, il se passe une dizaine de jours. J'ai plus le nom de votre entreprise en tête. Je recherche encore presque la même recherche que j'ai fait en naturel. Mais cette fois, hop, le premier résultat que je vois, c'est vous. Je me rappelle que c'était vous. Ça y est, ma mémoire se remet en place. Il est tôt le matin. J'arrive via un lien commercial. Et là, peut-être que je vais faire la vente. Là, du coup, la question à se poser, c'est est-ce que c'est le résultat naturel qui m'a permis d'avoir la vente ? Est-ce que c'est l'accès direct ? Ou est-ce que c'est le lien commercial ? Donc, il va falloir attribuer finalement des coefficients. Donc, il y a plusieurs méthodes de calcul. Il y a ce qu'on appelle le first click, c'est-à-dire qu'on va attribuer la vente au premier clic. Donc là, en l'occurrence, je dirais c'est le résultat naturel qui m'a permis de faire la vente. Il y a une deuxième méthode qui consiste, c'est-à-dire c'est le dernier clic, parce que c'est le dernier avant la conversion, on va dire que c'est le référencement payant. Sauf que si entre les deux, il n'y avait pas eu l'accès direct, j'aurais peut-être pas acheté. Donc, il y a des modèles qu'on appelle linéaires. On va attribuer un coefficient plus faible ici et plus haut ici, ou inversement, plus haut ici et plus faible ici, parce que sans le résultat naturel, je serais jamais arrivé là. Donc, il y a plusieurs méthodes de calcul. Aujourd'hui, le last click et le first click, nous, on les utilise plus du tout, parce que dans des parcours comme celui-là, on est arrivé au début par Facebook, à la fin par Facebook. Ok, mais si au milieu, il n'y avait pas eu ça, ou un email dans ce cas-là, j'aurais peut-être jamais acheté. Donc aujourd'hui, nous, on se base sur un coefficient, donc ce qu'on appelle le data-driven, c'est-à-dire qu'on va analyser déjà tous vos parcours d'achat, regarder et modéliser les récurrences qu'on peut avoir. Est-ce que souvent, les gens qui achètent commencent par du résultat naturel, finissent par du lien commercial ? Et c'est non plus à l'étape qu'on va attribuer un coefficient, mais au support. Je ne sais pas si je suis assez clair. C'est-à-dire que si on se rend compte que les résultats naturels, dans 100% des cas, ils font partie du trajet de vente, on va dire que le résultat naturel, il a du poids et que la stratégie qu'on met en place ici, elle est un, primordiale, et deux, qu'il va falloir encore la pousser. Et donc, on va modéliser. Donc, c'est pour ça qu'on a un pôle data et web analyse là-dessus, parce qu'aujourd'hui, sans ça, on n'est pas capable de faire la moindre orientation. Et on n'est pas capable de vous dire si vous êtes rentable ou pas, sur quel levier. Et on n'est pas capable de vous dire, non, vous mettez 10 000 euros sur Facebook, ça vous rapporte 40 000, c'est très bien, on est content, c'est x4, hein, c'est bien. Ouais, mais ça pourrait vous rapporter plus 60. Et donc, sans une donnée fiable, on n'est pas capable de le faire. Et sur les leviers d'acquisition, ça a l'avantage qu'on sait ce qu'on dépense, on sait ce qu'on gagne, encore une fois, si la web analyse est bien faite. Donc, on sait que chaque euro investi est censé vous rapporter tant. Donc, vous nous fixez un objectif de rentabilité. Alors, s'il est complètement impossible à tenir selon ce qu'on constate, on saura vous le dire. Mais on peut partir d'un objectif de rentabilité qu'un euro investi doit vous rapporter tant. Et on organise et on optimise toutes nos campagnes en fonction de ça. Donc, les résultats payants qu'on a vus tout à l'heure, Google, Microsoft, Yahoo, tous ceux que vous connaissez, Quant. Donc, Quant, c'est moins de 5%. Hein. Tout à l'heure, je parlais de faire les choses dans le bon sens et de couvrir 100% un levier avant d'aller plus loin. Aujourd'hui, sauf si votre marché il est en Angleterre ou aux États-Unis, je ne vous recommanderais pas d'aller sur Bing tant qu'on n'a pas fait tout ce qu'il y avait à faire sur Google, qui est 90% de la part de marché. Aujourd'hui, si on sait que votre campagne Google Ads elle est rentable, mais qu'on couvre 50% des gens qui recherchent, je vais plutôt vous dire d'augmenter le budget des 50% restants pour couvrir tout, que vous soyez encore plus rentable, que vous fassiez encore plus de chiffres. Et quand on aura couvert 100% de ce qu'il y a à faire sur Google, ok, on ira peut-être sur Bing. Sauf, encore une fois, selon la stratégie, si elle est internationale, si votre cible est plutôt CSP+, ou plus âgée, je vous recommanderais Bing un peu avant parce que c'est la population qu'on a sur Bing. Si votre objectif, c'est la rentabilité à fond parce que vous êtes déjà très poussé en acquisition, je vous recommanderais Bing parce qu'on a des concurrences moins élevées, des coûts par clic moins élevés, donc des coûts d'acquisition plus faibles. Mais en général, on commence par couvrir ce qu'il y a à faire sur Google, ensuite on va sur Bing et Yahoo. On peut personnaliser toutes les campagnes par type d'appareil. On peut dire que si mon taux de conversion il est très mauvais sur mobile, je ne diffuse pas sur mobile, sinon je vais perdre de l'argent pour des gens qui ne convertiront pas, ils ne trouveront pas le bouton acheter. Je peux diffuser que à Lyon et pas à Saint-Étienne. Je peux choisir à quelle heure du jour et de la nuit je diffuse. Si je suis un plombier et que je ne travaille pas entre 22h et 6h du matin, je ne vais pas m'amuser à diffuser mes annonces à cette heure-là pour une urgence. De toute façon, je ne pourrais pas y répondre. Je peux choisir les audiences. Sur les audiences, on connaît l'audience de votre site. On est capable de modéliser, de savoir quelle est cette audience-là, lesquels sont clients, quel est le profil de ces clients. Forcément, on va aller essayer de trouver des clients similaires, des prospects similaires. Google a une base de données monstrueuse. On peut essayer d'effacer les données personnelles qu'a Google, mais voilà, il les a. On est capable d'aller cibler des audiences similaires à celles qui vient sur votre site. C'est valable sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux. Hein. Il s'agit juste de poser le petit pixel de tracking sur votre site pour qu'on puisse avoir la donnée qui remonte correctement. Donc au niveau des audiences, on peut être très très fin. Dynamic Search Ads, alors, en fait, c'est l'algorithme Google qui va analyser chaque page de votre site et en fonction, si vous faites du référencement payant, il va lui-même créer des annonces en fonction des mots-clés de votre site. Donc finalement, on laisse un peu travailler le robot là-dessus. Nous, on ne l'utilise pas en lancement. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de contrôler exactement quand même ce qui va remonter. Donc on crée nos annonces, on crée toute notre liste de mots-clés. Et une fois qu'on a commencé à optimiser et qu'on a besoin d'aller plus loin, on va faire tourner le robot Google. On va le faire tourner sur un budget très restreint, juste pour savoir ce qu'il propose. S'il propose des choses pertinentes, on va les garder, mais on va les extraire de la partie automatisée de Google, parce que c'est quand même son intérêt de vous générer du clic. Il s'en fiche un peu, savoir si vous faites une vente derrière. Lui, c'est le coût par clic qui l'intéresse. Et c'est souvent comme ça que c'est optimisé quand on regarde un peu dans le détail. Donc nous, on le fait tourner quand une campagne a déjà un peu de maturité. Si vous n'avez pas de temps, que vous voulez gérer vous-même, c'est une super opportunité, c'est-à-dire que vous pourrez avoir des annonces qui seront correctes dès le début et commencer à faire de la vente en référencement payant assez rapidement avec ça. Si vous voulez vraiment accorder du temps sur une stratégie de référencement payant, il faut plutôt l'utiliser comme un outil qui va venir nourrir les autres annonces. C'est-à-dire qu'on va venir prendre des idées qu'on n'a peut-être pas eues là-dessus parce qu'on aura eu une perf qui va nous remonter, qui va nous dire « Ah ouais, ce mot-clé-là, je ne pensais pas du tout, ça marche, je vais l'extraire, je vais créer un groupe d'annonces et une campagne spécifique pour ce mot-clé-là ». Une campagne comme ça, pour nous, elle n'est pas censée durer plus de 2 mois. On la fait tourner 2 mois, on prend tout ce qu'on a à prendre dessus et on la coupe. Les ciblages de danse, sexe, âge, géolocalisation, customer match, c'est intéressant si vous avez une bonne base de données. Aujourd'hui, on est capable de cibler différemment les gens que vous avez en base de données de ceux que vous n'avez pas. Tout à l'heure, je parlais, on va pas envoyer une offre de bienvenue à un client qui est, ça fait 5 ans qu'il est client chez nous. C'est un peu la même chose. On va peut-être pas lui poser une annonce payante, alors que c'est quelqu'un qui commande tous les 2 mois chez moi, ça fait 5 ans. J'ai pas envie de lui repousser une annonce payante qui clique dessus, que je paye encore 50 centimes, alors que de toute façon, il va acheter chez moi. L'idée là, c'est qu'on va prendre votre base de données, on va l'uploader sur Google. Google va matcher toutes les adresses dont il a connaissance, donc les Gmail et toutes celles qui sont rattachées. Et on va lui dire, bah, toutes celles-là, c'est des clients. Et les clients, s'ils font une recherche, je ne veux pas leur afficher mon annonce. D'accord ? Et par contre, tous les prospects, eux, eh ben, je vais même mettre un peu plus pour eux. Au lieu de mettre 50 centimes d'enchères, je vais mettre 60 centimes. Je veux vraiment qu'ils viennent. Donc, le customer match, c'est prendre votre base de données, soit la mettre en repoussoir sur les annonces, soit justement avoir une stratégie d'annonce personnalisée, des enchères personnalisées pour tel ou tel segment. Audience similaire, donc ce qu'on appelle les lookalikes, on va aller choisir des personnes qui sont similaires à votre base client dans toute la base de données Google. Ça marche super bien aussi sur Facebook. Aujourd'hui, le lookalike le plus connu sur Facebook, c'est les amis. On va cibler les amis d'un des fans de ma page. Si c'est des amis, potentiellement, ils ont les mêmes centres d'intérêt. C'est l'audience lookalike par défaut. La navigation, on peut cibler différemment quelqu'un qui est venu récemment de quelqu'un qui est venu il y a un peu plus longtemps, quelqu'un qui a commencé un panier, qui ne l'a pas finalisé, et selon le montant du panier. Tout à l'heure, je parlais de reciblage dynamique, où on vous affiche le nombre de produits. On peut tout aussi avoir ça en se disant, si le panier est supérieur à 100 euros, qui est mettons que c'est un bon panier moyen pour mon site, s'il est supérieur à 100 euros, bah là, je veux lui pousser 5 euros de remise. S'il est qu'à 50 euros, je vais lui pousser une bannière pour lui dire de revenir, parce que c'est quand même très bien chez moi, mais je ne vais pas lui proposer de remise. Donc ça, on est capable d'aller jusque-là en ciblage. Et les scores de qualité. Aujourd'hui, un compte de référencement payant, Google Ads ou Bing Ads, a un score de qualité. Ce score de qualité, il y a beaucoup de paramètres, mais les principaux, c'est la qualité du référencement naturel sur votre site. Il part avec un bon a priori s'il est bon. Le deuxième, c'est la qualité de paramétrage du compte. Aujourd'hui, on recommande minimum 3 annonces par groupe d'annonces. Et c'est l'algorithme Google qui va pousser la plus pertinente. Si vous en mettez qu'une, bah, il n'en a qu'une à pousser. Et lui, il se dit, bah ok, la personne en face, je caricature, mais elle n'y passe pas beaucoup de temps, mon score de qualité, je ne vais pas l'augmenter. Donc il y a des bonnes pratiques comme ça, il y a le paramétrage du compte, et il y a aussi la performance. C'est-à-dire que si vos annonces, elles sont beaucoup cliquées, que vous avez un taux de rebond, donc une personne qui a cliqué sur votre annonce, qui arrive sur votre site et qui repart, si ce taux-là, il est faible, Google se dit, ok, le site de mon client répond à la requête, donc il est pertinent, il va améliorer ce score de qualité. Et ce score de qualité, c'est comme un coefficient pour une note d'un examen. Plus il est important, plus ça va ruisseler sur les performances de toutes vos campagnes. Mettons que vous avez un concurrent qui fait exactement la même chose que vous. Il a un score de qualité de 50, vous de 75. Pour le même mot-clé, vous apparaîtrez premier s'il a la même enchère que vous sur ce mot-clé. Pourquoi ? Parce que son score de qualité est moins bon. Donc vous aurez besoin de payer moins pour avoir mieux finalement. D'accord ? Donc au lieu de payer 50 centimes pour être premier, vous allez peut-être payer 45, là où lui devra payer 55 s'il veut finalement passer au-dessus de ce score de qualité. Donc le score de qualité, c'est super important à moyen long terme hein, parce qu'il y a des économies de centimes à chaque clic à faire. Ce n'est pas négligeable sur une année et sur un volume de clics énorme. Donc les réseaux sociaux, hein, y a de la pub à peu près partout sur les réseaux sociaux, c'est leur modèle économique, LinkedIn, Twitter, partout. Donc on peut avoir des appels au clic, on peut booster le nombre de fans, augmenter le nombre de commentaires, augmenter la portée. Donc ça c'est pour faire de la visibilité, on veut pas de fans, on veut pas de ventes, on veut juste qu'il y ait la plus grosse visibilité possible. On peut rediriger sur le site internet pour faire des ventes, voilà, on peut tout faire. La vidéo prend énormément de part aujourd'hui, avec un format qui est assez sympa sur Facebook maintenant. Sans avoir à créer de vidéo, il y a un petit outil Facebook qui est assez facile d'utilisation. Vous mettez vos photos, vous avez plusieurs types d'animations et il va vous les monter, entre guillemets. Hein. C'est juste des animations, c'est vraiment basique, mais ça marche assez bien pour se lancer dans la vidéo si on n'a pas les moyens de développer un spot. Et le format vidéo aujourd'hui, il est vraiment viral. Hein. Il se diffuse énormément. Alors il y a une époque, c'était un peu controversé parce qu'on n'avait même pas besoin de mettre play pour que la vidéo se lance sur Facebook. Ça a été critiqué par les annonceurs parce qu'en fait, Facebook annonçait que votre vidéo, elle a été vue des millions de fois. Ouais, c'est juste quelqu'un qui est passé sur la page, la vidéo s'est lancée, il ne l'a même pas regardée. Et Facebook s'attribuait ce mérite-là. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Sur YouTube, au niveau de la vidéo, on paye qu'à la vidéo vue à 100%. Quasiment normalement, sur la stat, quasiment tout le monde doit aller sur YouTube de temps en temps, au moins une fois. Aujourd'hui, vous avez une annonce assez régulièrement avant de voir votre vidéo, vous pouvez l'ignorer. Si vous l'ignorez, l'annonceur derrière ne paye pas. Il paye que si vous la voyez en plein. Donc petite astuce, si vous faites un spot vidéo sur YouTube, dans les 5 premières secondes, vous mettez le message et votre logo. Il faut savoir, hein, sur YouTube, coût d'une vidéo vue, en moyenne, c'est entre 3 et 6 centimes par vidéo vue. Donc en termes de visibilité, c'est quand même énorme, sachant qu'on arrive à tirer assez régulièrement du 1 centime. Donc là aussi, hein, sur tous les réseaux sociaux, on peut cibler sur tous ces sujets-là, un peu comme Google. Sur YouTube, on a les mêmes critères de ciblage que sur Google et on utilise toutes les données récoltées par Google, on peut les utiliser sur YouTube, donc on peut faire du reciblage sur YouTube. On peut choisir sur quel type de vidéo on veut s'afficher. Sur LinkedIn, si vous êtes en B2B, c'est intéressant parce que vous pouvez aller cibler par type de poste, taille d'entreprise, nom de l'entreprise, secteur d'activité. Donc en B2B, c'est assez intéressant LinkedIn. Ce qu'il faut avoir en tête sur LinkedIn, c'est qu'on est sur des coûts un peu plus élevés quand même. Le coût par clic est plus élevé que sur Facebook et sur Instagram. Et d'autant plus si vous faites ce qu'on appelle du sponsor de mail. Donc ça envoie un mail automatique. Si vous êtes sur LinkedIn, vous l'avez peut-être eu déjà. Ça paraît un peu plus personnel, ça reste un robot, hein, soit clair. Ça paraît juste un peu plus personnel, mais c'est plus cher. Par contre, on a des bons taux de conversion. Le retargeting, j'en parlais tout à l'heure, hein, 98% des gens ne commandent pas la première fois. Donc le retargeting va permettre de les recibler à un autre moment dans leur parcours d'achat. Ça peut être contextuel, hein, c'est-à-dire qu'on peut les recibler que s'ils vont sur un site qui parle de la thématique. S'ils vont sur un site qui n'a rien à voir, je ne vais pas à ce moment-là leur mettre une bannière de mon produit parce que ce n'est pas le moment, ils ne sont pas là pour ça. Le retargeting, ben voilà, comment ça peut marcher? L'internaute vient sur votre site, il visite une page, il en visite une autre. Il ne fait pas d'action. Alors, ça peut être pas d'action, ça peut être une action, mais pas celle qu'on veut. Eh bien, on va le recibler. Donc, ce qu'on appelle le display, ça va être donc de la bannière qu'on va aller placer. Ben, allez, là, j'ai mis le monde, l'équipe, fin actuelle, qu'on va placer dans sa navigation. Ça peut être dans le fil d'actualité des réseaux sociaux. C'est assez impactant comme format parce qu'on a toujours l'impression que c'est un post de quelqu'un qu'on connaît. En fait, c'est juste l'apparence, hein, ça reste bien une pub. Il y a un fonctionnement comme ça aussi en référencement payant qui est le Native Ads. En bas d'un article, vous avez souvent 4 articles similaires. Alors, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est marqué que c'est de la pub, hein, quand même. Et à chaque fois avec des titres très accrocheurs. Il a réalisé 2000 euros d'économie en un mois. C'est natif, pourquoi? Parce que c'est un format, une apparence native qui ressemble à la page sur laquelle vous êtes. Donc vous avez l'impression de rester dans la même page, mais pas du tout. C'est une annonce payante et vous êtes redirigé derrière, le but est commercial. On peut recibler aussi sur les résultats de recherche différemment. Donc on peut choisir d'afficher, d'enchérir plus que notre concurrent ou plus que d'habitude sur quelqu'un qui est déjà venu sur notre site. Et on peut le recibler en email. Bon, ça nécessite d'avoir une grosse base email. Donc avec tout ça, vous avez une stratégie qui est adaptée à votre business. J'aime beaucoup ce schéma, c'est quasiment la fin, je ne sais pas quelle heure il est. J'aime beaucoup ce schéma parce qu'il permet quand même de représenter l'enchaînement et une échelle de coûts. Alors cette échelle, elle varie de toute façon en fonction de votre activité. Hein. Donc il faut vraiment prendre ça comme une échelle. Plus on monte, plus ça va coûter cher. D'accord ? Qu'est-ce qu'on déploie et on a le volume, hein, qu'on peut générer ici et le coût. Forcément, quand on commence à faire de la télé, je pars du haut, hein, c'est pas bien, mais ça coûte très cher, mais ça amène énormément de gens. D'accord, voilà comment il est construit. Bloc principal, hein, référencement naturel, référencement payant sur Google et ensuite sur Bing. Quand on a commencé ça, alors là, on n'est que sur du référencement naturel, pardon. Assez rapidement, on peut commencer du référencement payant sur Google. Ensuite, on va pouvoir commencer sur Bing. Le volume des triangles, hein, représente à peu près le potentiel qu'on peut en espérer. Alors, c'est très schématique, hein, mais c'est pour repositionner. Le retargeting. Ici, on a l'emailing et l'affiliation. Et là, en fait, on couvre des leviers qui sont assez proches de la conversion et de la recherche active. D'accord ? Après, on va passer un peu plus dans la stimulation du besoin. Donc, le display. On sait qu'on ne va pas faire des ventes tout de suite, on veut juste diffuser, on veut juste être connu, être visible. Donc ça coûte plus cher, pourquoi? Parce que bah, il va falloir énormément de trafic pour avoir la première vente. Donc ça coûte plus cher. Mais cet élément-là, là, il va ruisseler et améliorer toutes les perfs qu'on aura ici après. Et après la télé. Aujourd'hui, on est capable de coupler un spot télé, le vôtre si vous avez le budget de faire de la télé, mais surtout ceux de vos concurrents si vous avez des concurrents qui font de la télé et qui ne mettent pas en place ce genre d'éléments. Aujourd'hui, on a des concurrents sur le métier. On a un client dans la fenêtre, les portes, etc. qui ne fait pas de télé. Par contre, il a des gros concurrents qui en font. Ce qu'on fait, c'est qu'on a accès à toutes les grilles télé de diffusion. Hein. On commence à enchérir, on double quasiment, voire on triple les enchères sur les mots-clés de notre concurrent 3 minutes avant le spot télé et 3 minutes après. Si lui ne fait pas ça, on va aller récupérer, l'estimation parce qu'on ne peut pas être sûr, à peu près 40% des bénéfices de son spot télé, pour lequel il aura dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros. Hein. On ne fait plus aucun levier ici sans pouvoir le mesurer ou l'optimiser. Il faut que ça serve absolument tout le reste ici. Normalement, quand vous commencez à faire de la télé ici, ça doit faire baisser votre coût d'acquisition. Pourquoi ? Parce que c'est votre notoriété qui va prendre le pas. Si c'est votre notoriété qui prend le pas, les gens vont venir via du direct. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure, mais quand on connaît, on va venir par du direct. S'ils viennent par du direct, ça ne vous coûte rien. Enfin, ça ne vous coûte rien, ça vous a coûté le spot télé, évidemment. Mais y a énormément de gens qui vont venir via du direct, ils ne vont pas vous coûter plus que ça. Bon, en conclusion, il faut bien s'entourer. Choisir des experts dans chaque domaine, savoir si vous voulez internaliser ou externaliser, bien mettre en face le temps qu'il y a à passer et l'expertise qu'il faut. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais on ne peut pas être expert dans tout. Aujourd'hui, un référenceur chez nous ne fera jamais le boulot d'un webmarketeur. Le référenceur va plutôt être un littéraire, là où le webmarketeur va être un matheux. On ne peut pas tout faire. L'implication du dirigeant. Là, pour moi, il faut plus savoir pourquoi il faut le faire, qu'est-ce que ça rapporte, plutôt que comment ça marche. J'ai été pas mal dans le comment ça marche, mais si vous vous entourez d'agents spécialisés, c'est plus pour en voir les résultats et savoir qu'est-ce que ça peut vous apporter comme résultat plutôt que pourquoi et comment ça marche. Enfin, plutôt que comment ça marche. Et travailler sur toute la chaîne de valeur, mais dans le bon sens. Hein, ne pas commencer par le peintre, alors que de toute façon, vos murs, ils sont pas droits. Donc au final, le digital, c'est tactique, ça peut rapporter gros. Voilà. Merci à tous. Okay,